liberté et don de soi. L'amour s'exprime dans la liberté et le don de soi. Cette liberté se réalise dans un choix de vie pour mieux se donner à l'autre. C'est beau. Est-ce que j'ose être moi-même ? Alors, ça semble complètement stupide comme question, n'est-ce pas ? Mais si on est moins taquin, c'est vrai. Se connaître soi-même, avoir une maturité sur ce qu'on est, sur ce qu'on pense, sur notre histoire, sur ce qu'on a vécu, c'est important. Et est-ce que j'ose assumer ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux ? C'est important. Mais pas au point d'être mégalomane ou pervers narcissique et manipulateur. Est-ce que je me sens libre du regard des autres ? Eh oui, mais d'un autre côté, vous voyez, dans cette question hyper moderne, n'oubliez pas quand même que le regard des autres peut être vrai et peut vous dire quelque chose de vrai, peut vous faire un vrai reproche. Ah non, alors je suis totalement libre, je fais ce que je veux. Je ne veux pas devenir frustré. Mon psychanalyste me l'a dit. Vous savez que Freud n'a guéri personne ? Non. Est-ce que je me donne la permission d'avoir une vie intérieure personnelle ? Ou est-ce que je communique tout à l'autre ? Et pourquoi ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Permission d'avoir une vie intérieure personnelle, c'est votre jardin secret. Eh bien, faites attention, il y a des choses qu'on ne dit qu'à soi-même et qu'il faut dire aussi à celui qui existe et qui connaît nos pensées à tout moment et qui peut être et qui est notre père, qui est notre frère. On peut parler à la Vierge Marie, on peut parler aux anges, on peut parler à Dieu. Et ils existent vraiment, et ils nous écoutent vraiment. On peut se parler à soi-même, mais il faut le faire modérément. Dans les siècles passés, il n'y avait pas de psychologues et de psychiatres, il y avait des prêtres. Et des prêtres qui étaient de très très bons psychologues. Et parce qu'ils écoutaient tout le monde. Et qu'il fallait vraiment qu'il soit très tartre, n'est-ce pas ? Très tartre, très bête, pour pas acquérir un peu de bon sens ou de psychologie à force d'entendre tout. Et puis en plus d'entendre la version de la femme, du mari, des enfants, des grands-parents, des cousins, de l'oncle, de la tante, à la fin ils avaient tous les éléments du problème. Quand vous parlez, c'est de votre point de vue que vous parlez. Quand vous avez quelqu'un qui entend tout, eh bien, il peut vous aider. Et c'était le prêtre. Et c'était la confession. La confession, contrairement à ce que vous diront, je ne sais pas, des journalistes ou des prêtres hyper modernes et qui n'aiment pas beaucoup la confession, elle est de toujours à toujours. Se confier à un homme sage, on l'a toujours fait. Et Jésus a voulu que le sage se taise absolument et qu'on ait la possibilité de tout dire de soi-même. Un serviteur de Dieu tenu à un silence absolu. Un prêtre qui dévoile ce qu'il a entendu, et il reste prêtre, hein, c'est une grâce qui imprime l'âme de célébrer la messe, de prendre le pain et le vin et de faire venir le Christ, de transformer la substance même de du pain et du vin pour que le Christ soit présent et qu'il se donne à nouveau sous l'apparence de cette séparation du corps et du sang qui rend présent le sacrifice du calvaire du vendredi saint. Mais un prêtre qui trahit le secret de confession est immédiatement reconduit est privé de l'exercice de son sacerdoce. Oui. C'est très très sévère. Pourquoi ? Eh bien parce que voyez-vous, avant les psychanalystes, les psychologues et les psychiatres, Et encore maintenant, c'est le lieu où on peut tout dire. Et on peut se libérer en vérité. Parce qu'on va nous dire ce qui est vrai ou faux, bon ou juste. Bon ou mauvais, juste ou injuste. Parce que le psychanalyste va vous dire, ah mais vous avez raison, mais tout va bien, mais allez-y. Vous faites jamais de mal, mais le mal ça n'existe pas, c'est le surmoi. Bon, j'arrête là. S'il y en a qui aiment la psychanalyse ou qui l'ont étudiée, vous inquiétez pas, il va y avoir des psychanalystes qui sont plus psychologues ou qui ont moins les marottes de comment dire, un peu bizarre sous la ceinture de certaines théories. Vous pouvez, si vous voulez, je fais pas de fixette sur mes ennemis, mais au contraire, vous avez des gens qui, justement, sont des personnes sages et de très bons conseils. Mais le prêtre doit l'être par mission. Et même un jeune prêtre, du fait même qu'il apprend, qu'il connaît toute cette expérience que tous les autres prêtres lui transmettent, doit avoir, si vous voulez. Saint Paul dit à Tite ou à Timothée que personne ne se moque de ta jeunesse parce qu'il l'avait choisi comme évêque alors qu'il était assez jeune. Mais il avait beaucoup de maturité et beaucoup de bon sens. Vous me direz, moi je me confesse qu'à des vieux prêtres, hein. Parce que les jeunes prêtres, ils sont prétentieux, ils croient tout savoir. Est-ce que je me donne la permission d'avoir une vie intérieure personnelle? C'est donc la possibilité même de dire à un prêtre, voilà, j'ai fait ça dans ma vie passée. Est-ce que je le dis à ma fiancée ou à mon fiancé? Est-ce que je dis tout? Et dans le mariage, est-ce que je dis tout? Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Et j'ai fait un voyage, tout ça. Alors là, je choque. En général, quand je dis ça, j'ai des retours. Je dis, quoi? Comment vous pouvez dire ça? Tout ça. L'un ou l'autre trompe l'autre. Bon, si c'est maladif et si c'est tout de suite au mariage et tout ça, c'est une cause de nullité. Hein. Mais si c'est, je sais pas, au bout de 5 ans de mariage, vous êtes disputé, vous avez une collègue de bureau ou de travail qui est tellement compréhensif, qui vous écoute et tout ça, une consolation, et blap! Et ça, c'est vraiment très dangereux. Est-ce que je le dis? Est-ce que mon époux ou mon épouse est capable de porter cette blessure? Eh bien, il fut un temps où on le disait au prêtre qui nous donnait l'absolution. Ah, mais c'était de l'hypocrisie, c'est trop facile et tout ça. Ben non, non, non. Non, 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 les prêtres étaient sévères. Hein. Ils disaient, non, ne recommencez pas. Hein. Ressaisissez-vous, soyez vertueux, mais là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave ce que vous avez fait. C'est très grave ce que vous avez fait. Je parle des hommes, ça peut être une femme. Et donc, est-ce qu'on doit tout dire? De nos jours, on est en 2018, ah oui, j'ai fait ça, j'ai machin, tel jour, j'ai fait machin, ben dis donc. En même temps, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez été repris de justice ou vous avez fait un séjour psychiatrique, il faut le dire. Mais est-ce qu'on a le droit à tout, de ne pas tout dire? Voilà. Ça fait des frustrations. Et alors on devient dingue et ça va plus et on va se disputer et j'oserais pas et machin et tout ça. Calmons-nous. Prenez Psychologie Magazine, lisez-le et vous aurez des conseils. Oui. Bon, mais si un jour vous avez un problème de savoir est-ce que je dis ou pas à mon époux ou mon épouse quelque chose, bien allez voir un vieux prêtre. Allez voir le sage du village. Oui, mais je vis à Paris, au point du village, je sais pas. Et c'est... Donc vous voyez, cette question qui a l'air de tout droit de Psychologie Magazine est finalement plus pertinente que ça. Aimer l'autre demande de s'aimer soi-même, au sens propre du terme, c'est-à-dire de ne pas se surévaluer ou de ne pas se sous-évaluer. C'est pas l'amour, s'aimer soi-même une formule justement journalistique ou... Hein. Et pour s'aimer, il est bon de savoir progressivement qui l'on est, quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, quelles sont nos limites, quelles sont nos capacités, quelles sont nos incapacités. Quel est le sens de sa vie? Qu'est-ce qu'on désire? Être riche, avoir un statut social comme ci, comme ça. Osons rechercher la vérité sur soi-même pour mieux aimer l'autre. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Quels sont les domaines qui me passionnent? Y a-t-il des aspirations profondes qui sommeillent en moi et que je n'ai pas pu développer? Vous voulez absolument faire le tour du monde en solitaire? Ben dites-le tout de suite. Voilà. Suis-je heureux? Travail, loisirs, vie professionnelle. Comment cela se manifeste-t-il? Si je suis heureux ou si je suis pas heureux? Mais c'est des questions à la noix. Hein. Ça peut vous faire sortir des trucs qui sont minuscules, qui vous rendent pas malheureux. Et à force de se poser des questions, on se pourrit la vie. Vous voyez. Et ça fait le même effet qu'une psychanalyse, où les gens sont cramés au bout de 5 ans, quoi, ou d'un an. Je suis heureux, je suis pas heureux, je suis frustré, je suis pas frustré. Voilà. Mais bon, je vous laisse quand même, puisque c'est une préparation ordinaire, il faut à un moment donné que je sois plus moderne. Quelle est ma propre définition du bonheur? Qu'est-ce qui me fait vivre aujourd'hui? Lors de quelles circonstances ai-je été la plus touchée par la beauté ou la grandeur de la vie? Alors, si vous retirez le côté un peu niais de cette question, quels sont les moments qui vous ont vraiment touché aussi, qui ont été importants? Qu'est-ce que j'aime en moi? Cette question a l'air stupide, mais attention, c'est vos qualités. Et c'est important d'avoir de l'estime pour soi-même. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais... Qu'est-ce que je n'aime pas en moi? Vous voyez? Mais mon haleine de chien crevé le matin parce que je suis fumeur. D'où l'importance d'avoir un bon dentifrice. Ai-je confiance en moi? Quels sont les domaines où j'ai le moins confiance en moi? Et c'est pas anodin comme question. Il faut rétablir aussi la confiance, hein, quand parfois on... Quel effet le mariage aura-t-il sur ses problèmes, si vous en avez? Comment est-ce que je me montre aux autres habituellement? Hypocrite, naturel, surfait, histrionique, réservé, compliqué. Moi je connais vous voyez, une personne extrêmement fragile et extrêmement susceptible. Mais elle arrive à vivre. Hein. Alors c'est un peu compliqué dans les réunions de famille, tout ça. Mais c'est son tempérament. Et voilà, il n'y a pas mort d'homme quand même. Et voilà. Et vraiment, une personne est assez sensible et tout. Et alors, et bien voilà, ça se passe bien au bout dans les années. Quand je donne des exemples comme ça, il faut que je fasse attention que vous ne trouviez jamais de qui je parle. Mais ça, je transforme des faits, tout ça, c'est un jeu pour un prêtre de vous livrer son expérience sans que vous puissiez jamais savoir de qui il parle. Dans ma vie de célibataire, ai-je de vrais amis? Toc, 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 toc. En général, on a deux ou trois amis dans sa vie. C'est des personnes qui seront là. C'est beau ce que je vous dis, vous l'avez tous entendu. Mais voilà. Mais en général, on n'en a pas quatre. En général, on en a deux. Là où je dis ça parce que j'en ai deux.
Il y a deux témoins.
Comment ?
Il y a deux témoins de mariage.
Ouais. Dans ma vie de célibataire, y a-t-il certains domaines dont il me semble important de me séparer ? Voilà. Donc les idées reçues, je vous les épargne sur le fait de ranger ses affaires, de les laisser traîner par terre. Mes parents et ma famille, alors, je vais provoquer peut-être des ruptures de fiançailles. Mais un jour, vous avez quelqu'un qui... c'était un garçon, hein. Non, c'est une fille, je ne sais plus. Elle dit à sa mère, mais j'aime pas du tout sa façon de manger. C'est, ça me... une petite répulsion, je sais pas, il mâche pas la bouche ouverte, mais il y a un truc, tout ça. Et puis elle lui a dit vraiment, et alors la mère lui a dit, ben, n'oublie pas que tu le regarderas manger pendant longtemps. Mais ça peut se corriger, ça. Il faut dire des choses toutes bêtes, hein, parfois. Tatati. Mes parents et ma famille ont-ils eu une influence sur moi ? Quelle relation ai-je avec ma mère, avec mon père ? Normalement, vous avez tué votre père et vous avez... Mais quel malade ! Il n'y a même pas ça dans Oedipe. Hein. C'est faux, tout est faux. Dans ma jeunesse, quel rôle ont-ils joué ? Eh oui. Il y en a qui n'ont pas connu leurs parents, d'ailleurs. Hein. Mais il y a des pères très réservés, des pères qui parlent beaucoup, des mamans qui parlent beaucoup, des mamans plus réservées. Mais... Voilà. C'est la nature humaine. Hein. Ça... Qu'est-ce qui me paraît le plus essentiel à garder, à développer ? Y a-t-il des modèles de couple que j'aimerais imiter ? Parents, parents de mon fiancé, autres ? Et en quoi ? Alors il y a des personnes qui en effet, mais c'est de l'ordre, c'est plutôt psychiatrique, hein. Et cause de nullité. C'est l'attachement maladif à son père ou à sa mère, hein, ça. Et avec des trucs mais invraisemblables, qui peuvent exister. Hein. C'est... Alors il faut bien, normalement, quand sans vivre ensemble et sans être concubin, figurez-vous que on peut sans forcément avoir un chaperon et ou autre, mais se faire la cour, c'est important. Et d'ailleurs, voyez-vous, entre la première rencontre et le mariage, en théorie, de manière incompressible, c'est 6 mois. Mais c'est théorique. Moi, je refuse de marier des gens qui se connaissent depuis moins d'un an. Hein. Il faut absolument que les gens se connaissent, se parlent. C'est plus possible, on est en 2018. Il y a plus de mariage arrangé, hein. Il n'y a plus de... Les coups de foudre, c'est pour Netflix, hein, Netflix. Et encore, c'est Twilight Zone, c'est la quatrième dimension, les coups de foudre. Non. Suis-je à l'aise dans la famille de mon fiancé ou de ma fiancée ? Alors, figurez-vous qu'on peut couper avec sa famille. Et se marier et avoir sa vie. Il quittera son père et sa mère et s'unira à sa vie. Mais c'est triste. Mais c'est possible. Il y a des personnes qui... La belle-fille ou le gendre supporte absolument pas les parents et l'autre pour le mariage, pour des enfants qui viennent, acceptent de plus voir ou presque plus voir ses parents. Bah, évidemment. pas vertueux, hein. Pas charitable. Hein. Mais bon. Alors, il faut assurer que les parents souffrent. Hein. C'est pas naturel. Hein. Mais bon, il y a des mariages qui tiennent malgré de telles exigences du fiancé ou de la fiancée. De l'époux ou de l'épouse. Mais bon, en 2018, c'est pas sûr que ça tienne comme avant. Donc il vaut mieux que vous soyez au moins tranquillement paisible dans les réunions de famille. Ai-je le sentiment qu'il me faut épouser une famille entière ? Est-ce que je souhaite couper tous les liens entre ma fiancée et sa famille ? Qu'est-ce qui me fait souffrir dans la famille de mon fiancé et de ma fiancée ? Je sais pas, mépris, incompréhension, je sais pas, enfin... Et d'un autre côté, justement, vous vous mariez pas avec la belle famille, donc si dans les réunions de famille c'est normal, si vous pouvez confier ordinairement les enfants à garder au grand-père, au grand-mère, aux grands-parents, voilà, bon, vous n'êtes pas obligé non plus de les aimer comme vos propres parents. C'est... Qu'est-ce qui me fait souffrir dans la famille ? Hein ? Suis-je à l'aise avec les amis de mon fiancé et de ma fiancée ? Ça, c'est plus fréquent qu'il y ait des petits éloignements avec nos anciens amis. Ben, il faut savoir le vivre. Quels sont les points qui m'empêchent d'être authentique, d'être vrai ? Être à l'écoute de l'autre. 8 minutes à tenir. Suis-je prêt à vraiment respecter le jardin secret de mon fiancé ? Je vous l'ai développé tout à l'heure. Hein. C'est pas si niais que ça. Faites attention. Voilà. Mais en même temps, voilà, de nos jours, on parle beaucoup. Hein. On est très sincère, on est très direct. Hein. Donc il faut en tenir compte un peu si l'autre est teinté de cette volonté de tout savoir. Hein. Est-ce que j'essaye de promouvoir la liberté de mon fiancé et de ma fiancée ? Mais tu peux partir en vacances avec tes anciens amis, moi je reste à la maison et je fais du tricot, voilà. Ou alors, oh, tu peux partir avec tes amis et moi je fais du bricolage. Toujours des images d'Épinal de anti-théorie du genre, je suis vraiment désolé. De découvrir et d'épanouir ses talents. Ai-je pris conscience que je dois aider mon fiancé dans sa recherche d'une vie intérieure et spirituelle tout au long de sa vie ? Ah, ça commence à devenir plus sérieux. N'oubliez pas que si vous ne croyez pas qu'il n'y a pas une vie après la mort et que Dieu vous aime, vous souffrirez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Cultivez la foi. Cultivez l'espérance. Vous avez plein de pays, mais c'est inimaginable d'être athée. Mais d'abord, je sais pas, ils sont là, ils voient la nature, ils disent, ça s'est fait par hasard, par milliards d'années. Mais oui, bien sûr. Par élimination naturelle, concurrent, enfin, je sais plus, les espèces sont éliminées, c'est comment ça s'appelle déjà ? Sélection naturelle, milliards d'années, tout ça. Ah oui, là toujours mon exemple idiot, hein. Ah donc on a les yeux en face des trous par hasard. Ah, ça vaut mieux que d'avoir un œil au fond de la gorge, vous voyez. Mais on devrait ouvrir la bouche tout le temps pour voir. Oui. Ai-je pris conscience que je dois aider mon fiancé à cette vie intérieure ? Nous la développerons à la séance sur le sacrement. Dans notre couple, comment l'amour s'exprime-t-il le plus ? Sentiments, attention, paroles, gestes, SMS, courriels, machin, Facebook, machin. Suis-je prêt à renoncer à tel ou tel désir personnel d'entretenir un blog pour le bien de mon conjoint ou de notre couple ? Vous voyez ? Où je mets toutes mes recettes de cuisine, tout ça, machin. Bon, il y a des gens qui peuvent avoir un mariage très heureux tout en ayant un blog narcissique, hein. Vie professionnelle, enfants, loisirs, vacances. Que signifie pour nous de nous engager à vie ? Avons-nous déjà eu l'occasion de nous engager ? Êtes-vous militaire? Est-ce que vous avez pris 5 ans dans la Légion? Et sur quoi va reposer la force et le soutien de notre union? Quels moyens humains et divins voulons-nous choisir? Est-ce que vous priez ensemble? Essayez de dire le Notre Père ensemble. Je vous salue Marie ensemble. Je crois en Dieu, notre Père, et je vous salue Marie. Ça va vous faire tout drôle si vous ne l'avez jamais fait. Sur quoi repose la vérité de notre amour? L'amitié, c'est quelque chose. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, écrivait Montaigne, il y a une rencontre de deux personnes. Mais voyez-vous, quand vous avez les couples de saints comme Louis et Zélie Martin, eux, c'était des saints au plus du 19e siècle, mais qui, bon, ont eu 5 enfants, 5 filles. Oui. Communication. Est-ce que je sais écouter? Comment se manifeste cette écoute dans mon attitude? Et mon fiancé, est-ce qu'il sait écouter? Est-ce que l'un de nous parle trop ou au contraire reste trop silencieux? Imaginez que je me sois marié. Si elle avait eu le même tempérament, mais disons, ça aurait été de longues discussions. Si elle avait été très silencieuse, ça aurait été de longs monologues. Suis-je capable d'exprimer à mon fiancé mes sentiments? Peur, tendresse, colère. Voilà. Y a-t-il des questions que j'ai peur de poser à mon fiancé ou à une fiancée? Mais alors, est-ce que... Non. Quand je rencontre un obstacle dans la communication avec mon fiancé ou ma fiancée, quelle est ma réaction? Et ça... Oui, de nos jours, il vaut mieux que vous vous parliez l'un à l'autre, hein. Parce que c'est un vrai drame si on n'arrive pas à se parler. Il fut un temps où on avait des amis, on avait un père, une mère, un prêtre qui pouvait nous raisonner quand on se disputait un peu sérieusement et qu'on arrivait... Mais providentiellement, vous avez des de nos jours quand même encore, grâce à Dieu, un ami, une amie qui peut... Méfiez-vous de vos amis, qui vous disent de divorcer tout de suite. Hein. Notez-les bien et lentement, virez-les. Hein, une amie qui vous dit « Ah, mais là, il a de l'emprise pour toi. D'ailleurs, j'ai lu un livre sur les manipulateurs et tout ça, et c'est exactement ça. » Il dit « Ah là là. » Même si c'est une vieille amie d'enfance, vraiment, hein, à votre place, hein. Non, les personnes qui ont divorcé sur des conseils d'amis, ça, c'est effrayant. Non. Avant, on se confiait à une grand-mère, un grand-père, à des personnes sages, à des vieux prêtres. Vous êtes à Paris, franchement, si vous restez dans des grandes villes, vous en trouverez en province aussi, d'ailleurs, il n'y a plus que des vieux prêtres, d'ailleurs. Parce que la charité se refroidit, donc comment donner sa vie? Alors, on va autoriser l'ordination d'hommes mariés. Ça nous pend au nez, ça va commencer par la Mosonie, puis ça va finir par la Beauce. Hein. Mais, voyez-vous, c'est un peu bizarre, voyez, de baisser la barre comme si on n'était plus capable. Voyez. C'est pas une question d'être que ça soit plus facile ou pas d'être prêtre. Il y faut une raison, vous savez, d'entretenir profondément sa foi, de parler à Dieu, de parler de Dieu. Il suffit pas d'être célibataire ou marié, hein. C'est vraiment il y a une grâce particulière. Donc c'est pas en permettant le mariage des prêtres ou machin qu'il va y avoir plus de monde. Aller chez les luthériens, aller chez les calvinistes, chez les réformés, ben, eux aussi, hein, en 2018, ils tirent la langue. Hein, pour avoir quelqu'un qui va donner sa vie pour pour parler du Créateur, du Sauveur, de tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut une relation personnelle avec Dieu. C'est pas un métier. Quels sont les sujets que je n'aborde pas volontairement avec mon fiancé ou ma fiancée? Quelle a été la dernière démarche de mon fiancé qui m'a aidé à me confier à lui? Y a-t-il des choses que mon fiancé est en droit de connaître sur moi pour être vrai dans ma relation? Là, c'est un petit peu de répétition. Le regard sur l'autre. Une minute. Ça a été vite fait. Ai-je un regard positif sur mon fiancé dans toutes les situations? Lorsque je l'écoute, est-ce que je cherche vraiment à comprendre ce qu'il veut dire? Suis-je capable de percevoir ce qu'il me dit de vrai, même quand cela m'est désagréable? Suis-je capable de me remettre en question, de reconnaître mes torts? Qu'est-ce que c'est important de savoir être objectif sur soi-même, avoir la véritable humilité, c'est-à-dire ni se déprécier, ni se surévaluer, et reconnaître ses torts, qu'est-ce que c'est important? Mais c'est toi qui as perdu ça. Mais comment moi je l'avais laissé là, tout ça, enfin des vous savez, sur les petites choses. Et puis vous mettez votre main dans votre poche et vous retrouvez la clé. Et là vous dites ah ben c'est vraiment je m'énerve trop vite. Est-ce que j'estime bien connaître l'autre dans sa différence? Quels sont ses centres d'intérêt? Le caractère de mon fiancé m'incommode-t-il? Là, c'est embêtant. Parce que le caractère, ça se canalise, mais ça ne se change pas. Vous mourrez avec votre caractère. Quoi? Si je suis lymphatique, je serai paresseux jusqu'à la fin de mes jours? Que nenni. Un lymphatique, c'est quelqu'un qui n'est pas nerveux, mais ce n'est pas pour ça qu'il est paresseux. Mais il a plus de facilité à l'être. Mais par contre, vous le garderez jusqu'à la fin de vos jours. Un sanguin restera sanguin. Sauf s'il a un AVC et qu'il est calmé. Mais un nerveux restera nerveux, un anxieux restera anxieux. Mais l'anxiété, ça se canalise. Qu'en est-il de l'usage qu'il fait du tabac? Pourquoi il... De l'alcool, les femmes de nos jours, elles se biturent comme les hommes. De son attitude face au jeu. Ah, j'espère que vous ne jouez pas. Hein. Même s'il y a des pubs là pour le jeu sur le foot en ce moment, Non, pitié. De sa façon de dépenser l'argent. À ça, par contre, faites attention, hein, franchement. Hein. Parce que c'est comme ça qu'on ne veut pas d'enfant. Hein, pour garder son train de vie. C'est pauvre comme raison. Ce qui est curieux, c'est que vous avez des familles pauvres qui ont des enfants et qui les tiennent, et des familles riches qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils s'imaginent qu'ils perdront leur fin de vie. C'est délirant. De son humeur, de son sens de l'humour. Alors, mon sens de l'humour est un peu excessif. Un jour, et un peu prétentieux. Et du coup, un jour, il y a un élève, j'étais dans une pension, et j'avais fait un trait d'esprit stupide, et il y en a un qui a dit quelque chose, mais un de mes confrères l'a entendu, et l'a engueulé, l'a repris, et moi je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait dit. Il avait dit, on fait comme les parachutes. Alors là, je connaissais pas l'expression. Vous avez dit quoi? On fait comme les parachutes. Et il croyait que je connaissais. Et je connaissais pas. J'étais con à ce point-là. Mais... Eh bien, en fait, c'est quand on n'a pas d'humour, on fait comme les parachutes, on s'écrase. Suis-je mal à l'aise face au comportement de mon fiancé en société, avec mes amis, à la maison, avec ses propres amis ou sa famille? Si c'est Tom Cruise qui monte sur le canapé de celui qui l'interviewe, là vous comprendrez sa femme ou sa deuxième ou sa troisième femme, je ne sais plus. Mais il est aussi scientiste, je sais pas.
Scientologue.
Scientologue. Mon fiancé dépend-il trop de ses parents? Normalement c'était plus haut, mais bon. Mon fiancé est-il en général satisfait de ce que la vie lui apporte? Qu'est-ce que j'apprécie le plus en lui? Que m'apporte-t-il de plus grand? Vous voyez, c'est le PSG maintenant. Équilibre, vision de la vie, relation aux autres. Qu'est-ce qui me fait souffrir en lui? Ben dis donc, la vache. En général, dans les fiançailles... Que m'est-il difficile d'accepter? Caractère, attitude, éducation. Il y a des répétitions un peu. Suis-je prêt à accepter que mon fiancé puisse évoluer, changer? Alors ces questions, à mon avis, là, ce paragraphe est plus opportun après le mariage. Quand la passion a laissé place à l'amour paisible. Ou l'amour plus mature, plus structuré. Voilà. Avons-nous vécu des conflits? Avons-nous eu tendance à les fuir, à nous affronter, à nous expliquer? Avons-nous eu l'occasion de nous dire réciproquement nos blessures dues à la réaction de l'autre? Avons-nous déjà pris le temps de nous pardonner? De prier pour demander pardon à Dieu? En quoi m'est-il difficile de pardonner? Comment je perçois le sacrement de la réconciliation? Avec quelle régularité j'aimerais vivre la confession? Alors là, vous voyez, si vous êtes des catholiques non pratiquants, eh bien, vous êtes dans une préparation catholique, intégriste, captif. Vous devez, sinon vous avez le dossier, vous n'aurez pas le dossier. Mais moi, je vous l'aurais dit. Jésus est la parole éternelle du Père. Il s'est fait homme, il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Nous sommes des êtres spirituels, nous devons nous aimer les uns les autres. Et il a posé des moments et des lieux où nous pouvons justement nous appuyer sur cette réalité de l'incarnation. Il y a une... C'est mystique de s'unir à Jésus, qui est Dieu et vrai homme. Vous voyez, communier. L'Église nous demande de communier au moins une fois par an à Pâques, mais avec une confession. Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que je prie? Est-ce que je suis uni à Dieu? Est-ce que je... Voilà, c'est... Est-ce que je reconnais mes torts? Est-ce que il y a quelqu'un qui me connaît, qui connaît toutes mes pensées, et à qui je peux parler? Il dit, ben oui, mais alors les protestants, eux, ils parlent à Dieu, ils n'ont pas besoin d'aller s'humilier devant un inconnu qui est plus ou moins bien luné ce jour-là. Terrible, un prêtre qui vous fait des remarques désobligeantes en confession, c'est une grave faute de sa part. Un prêtre doit être très doux en confession. C'est une grave responsabilité pour lui. Des personnes qui sont, comment dire, c'est une occasion extraordinaire de sincérité et de connaissance de soi-même et de sincérité vis-à-vis du regard de celui qui est Dieu, qui nous connaît et qui sait ce qu'on va dire et qui veut nous l'entendre dire pour que nous puissions être vrais avec nous-mêmes. Jésus va confesser Saint Pierre qui a eu peur de mourir. Et quand il attendait l'issue du procès pendant la nuit devant le tribunal religieux, il y a des personnes qui étaient là qui nous disent « Mais toi, tu étais avec Jésus ?»« Non. » Il l'a vu faire des miracles par milliers. Il l'a vu ressusciter 3 morts. Il ne pense pas que Dieu peut l'aider ou... Il n'a pas envie d'être arrêté et de subir les coups que Jésus a déjà subis. Et qui, pour lui, c'est le Messie, il a existé avant Abraham, il est Dieu, il est puissant, il s'est laissé arrêter. Et lui, c'est un homme, donc toi, t'étais avec eux? T'étais avec lui? Non. Je ne connais pas Jésus. Une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, c'est une servante qui est là, dit, toi, tu étais avec eux. Non, mais non, je jure que je ne connais pas. Au nom de Dieu, je ne connais pas cet homme. Et lui qui était à ses côtés quand Jésus a ressuscité Lazare, hein, ils ont ouvert le tombeau, qui était de le corps déjà décomposé. Jésus qui reforme le corps, l'âme qui revient dans le corps. Lazare qui est transporté à l'entrée du tombeau parce qu'il est enserré d'un suaire et de bandelettes. Et c'est impressionnant comme miracle, hein. Je vous assure que ceux qui ont été témoins de ça, et Pierre l'a vu, hein. Mais seulement vous voyez, quand vous avez peur d'être arrêté, frappé, c'est physique, hein. Mais Jésus va lui demander trois fois s'il l'aime après la résurrection. Ils se promènent sur le bord du lac de Génézareth. Jésus vient de leur apparaître. Il leur a dit de jeter les filets. Ils n'avaient rien pris pendant toute la nuit. Les poissons de Génézareth remontent à la surface uniquement la nuit. Les pêcheurs pêchent plus la nuit. Ils n'ont rien pris, c'est le petit matin. Et un homme sur le rivage leur dit de jeter à nouveau les filets. Ça leur dit pas quelque chose? Ils l'ont déjà vécu, ça. Et Jean, qui est là dans la barque de pêcheur, grande barque, il dit à Pierre, mais c'est Jésus. Il jette les filets, il tire, et les poissons par centaines. Alors, Pierre se jette à l'eau pour être le premier sur le rivage. Et Jésus a préparé un repas, des poissons, du pain grillé, sur le bord du lac. Donc eux, ils arrivent, Pierre va les aider quand même, et ils sont là, ils s'assiedent et ils restent en silence. C'est pour eux, c'est quand même impressionnant, hein, ils l'ont vu mourir, hein, donc ils l'ont déjà vu au Cénacle, une fois, deux fois, c'est la troisième fois qu'ils le voient. Et voilà, c'est impressionnant, quoi. Surtout que Jésus a les marques, les clous. Tout son corps a été restauré, mais il a les marques des clous. Hein. Et il leur donne du poisson grillé, il leur donne du pain, le cuit sous la cendre. Et puis il se lève et il prend Pierre avec lui. Et il marche et il dit, Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix mes brebis, paix mes agneaux, paix mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi il lui pose deux fois la même question? Mais là, il proteste, selon son caractère, son tempérament. Mais tu sais que je t'aime. Paix mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Et là, blouf! C'est vrai, l'amitié en danger, hein. Et là, mais Seigneur, vous savez tout. Pourquoi vous me torturez comme ça, quoi? Vous savez que je vous aime. Paix mes brebis. Vous savez, les agneaux sont les enfants des brebis. Ils le confirment comme prince des apôtres. Mais si vous voulez, pour Saint-Pierre, il n'est pas tout à fait idiot, hein, donc il l'a renié une fois, il l'a renié deux fois, il l'a renié trois fois. Notre Seigneur, un peu taquin, un peu cruel, lui fait réparer trois fois. Donc il le confesse. Mais Jésus est Dieu, hein, et donc il sait très bien que Pierre regrette son péché. Mais il lui fait dire. Mais le jour où vous aurez suffisamment de foi et d'espérance pour vous dire que vous pouvez parler à Dieu et que vous pouvez être authentique et sincère parce que vous passez par la confession et pas seulement par votre prière personnelle qui est très bonne, hein. Mais voyez-vous, les protestants, il y a 500 ans, ils ont dit « Allez, on n'a pas besoin de prêtre. » Mais il leur manque toujours cela depuis 500 ans. Et vous l'avez sur un plateau et vous préférez aller voir des psychologues pour payer 80 euros la demi-heure. C'est tarte, hein. Bon. Enfin voilà. Donc, ça, c'était la liberté, les conditions de la fidélité, l'unité, maintenant et après. On va un peu se répéter quand même pour la quatrième séance, mais on abordera les enfants avant la vie professionnelle, l'argent, bon. Mais ça sera pour la prochaine fois. Avez-vous des questions ? Avez-vous survécu ?